de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer entre autres. Soutien occidental à l'Ukraine, créer un état terroriste. Russie accueille 5 millions de réfugiés ukrainiens. Président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, rencontra la dirigeante taïwanaise Tsai Ing-wen. Devenir nouveau membre de l'OTAN, la Finlande peut garantir une sécurité forte. Indonésie est le deuxième plus grand contingent au SEA Games et APG 2023 au Cambodge. Indonésie fait pression pour un engagement d'une seule santé à travers la réunion de l'ASEAN. Et BP2MI a publié 503 PMI en Corée du Sud. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. La Russie affirme que le soutien occidental à l'Ukraine a créé un état terroriste après que Moscou a accusé Kiev d'être responsable du meurtre d'un éminent journaliste de guerre russe à Saint-Pétersbourg. Vyacheslav Volodin, chef de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, via Telegram mardi, a déclaré que le service fédéral de sécurité russe avait repoussé un certain nombre d'attaques contre des journalistes, dont Vladimir Solovyov, Margarita Simonian, Dmitri Kiselyov, Yevgeny Popov, Olga Skabeyeva, Tigran Keosayan et Konstantin Malofev. Il a déclaré que les responsables des personnes tuées et blessées étaient des dirigeants occidentaux qui soutenaient l'Ukraine. L'explosion s'est produite dans un café de la ville de Saint-Pétersbourg a tué dimanche l'éminent journaliste de guerre russe Vladlen Tatarsky. La commission antiterroriste russe a accusé les services secrets ukrainiens d'être à l'origine de l'explosion. D'autre part, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il n'était pas préoccupé par ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg. Pétersbourg ou Moscou parce qu'il pensait à son propre pays. La Russie affirme avoir accueilli plus de 5 millions de réfugiés de la région ukrainienne de Donbass, dont 730 000 enfants depuis février 2022, a déclaré mardi la commissaire russe aux droits de l'enfant. Marielle Vova-Bilova, commissaire russe aux droits de l'enfant, a déclaré que les enfants étaient arrivés avec leurs parents ou tuteurs lors d'une conférence de presse à Moscou. Elle a déclaré qu'ils n'avaient jamais eu connaissance d'un seul cas d'enfant de l'Est de l'Ukraine séparé des membres de leur famille et transféré dans un orphelinat. Lvova-Bilova répondait aux accusations de la Cour pénale internationale CPI qui, le 17 mars, avait émis des mandats d'arrêt contre elle et le président russe Vladimir Poutine pour crimes de guerre pour la déportation illégale d'enfants du territoire ukrainien occupé par la Russie. Lvova-Bilova a déclaré que les allégations étaient fausses. Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, rencontrera la dirigeante taïwanaise Tsai Ing-wen mercredi en Californie. Selon un communiqué publié lundi par son bureau, a finalement confirmé la rencontre qui devrait exaspérer la Chine. La Chine a menacé de prendre des contre-mesures sévères contre les États-Unis si la réunion avait lieu. La brève déclaration indiquait que la réunion serait de nature interpartie et aurait lieu à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan. Tsai effectue actuellement un voyage de 10 jours en Amérique centrale avec un transit prévu par les États-Unis à un moment où les tensions sont vives entre Washington et Pékin. Un porte-parole du consulat général de Chine à Los Angeles a critiqué la rencontre entre Tsai et le troisième plus haut responsable américain McCarthy et l'a qualifié de autre acte qui viole gravement le principe d'une seule Chine, ajoutant qu'il blesserait gravement les sentiments des 1,4 milliard de Chinois. Il a également averti que McCarthy nuirait davantage aux relations sino-américaines en tenant de pourparlers avec Tsai. La Finlande a reçu de solides garanties de sécurité après être officiellement devenue le 31e membre de l'Organisation des traités de l'Atlantique Nord, OTAN. Cela a été transmis par le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, aux journalistes mardi alors qu'il se rendait à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Il faisait référence à la signature de l'accord de Washington qui a formé la base de l'OTAN le 4 avril 1949. À la même date, cette année, la Finlande est officiellement devenue membre et son drapeau a été immédiatement hissé au siège de l'OTAN lors d'une cérémonie. Il a déclaré qu'étant donné que le processus de ratification de la demande d'adhésion de la Suède était encore incomplet, le pays était dans une bien meilleure position en tant qu'invité. Stoltenberg a promis de travailler dur pour achever la ratification et a tenu une autre réunion entre les représentants de la Turquie, de la Finlande et de la Suède. L'Indonésie est enregistrée en tant que pays participant avec le deuxième plus grand nombre de membres du contingent aux SEA Games 32 2023 et aux ASEAN Paragames APG 12 2023 au Cambodge. Sur la base du site officiel de SEA Games Cambodia mardi, l'Indonésie a envoyé 1802 délégués selon la liste de l'entrée par numéro. Le contingent rouge et blanc se situe un niveau en dessous de la Thaïlande, qui a envoyé le plus grand nombre de représentants au plus grand événement sportif d'Asie du Sud-Est. Au total, 12 404 représentants de 11 pays participeront aux SEA Games et aux Asian Paragames au Cambodge. Outre l'Indonésie et la Thaïlande, il y a aussi le Vietnam, puis la Malaisie, les Philippines et Singapour. Pendant ce temps, le Cambodge, en tant qu'hôte, était présent avec un effectif de 1158 délégués, suivi du Myanmar, suivi de la Birmanie, du Laos, du Timor-Leste et du Brunei Darussalam, qui étaient les moins de pays à envoyer des représentants avec 113. Spécifiquement pour le contingent indonésien, il n'y a eu aucune déclaration officielle concernant le nombre des athlètes envoyés aux SEA Games ainsi qu'aux Asian Paragames 2023 au Cambodge. Le ministre indonésien de la jeunesse et des sports, Menpora Dito Aryo Tejo, a déclaré aux journalistes lors de la passation de pouvoir à Wisma Menpora Jakarta mardi qu'il annoncerait bientôt le nombre de contingents pour l'événement sportif biennal. L'Indonésie encourage l'engagement des pays membres de l'ASEAN à renforcer un certain nombre de réalisations obtenues lors de l'événement du G20 en 2022, dont l'une est l'approche sanitaire unique pour prévenir les futures pandémies. Le chef du bureau de la communication et des services publics du ministère indonésien de la Santé, Siti Nadia Tarmizi, a confirmé mardi à Jakarta que le leadership de l'Indonésie lors de la réunion de l'ASEAN de 2023 portait sur le thème ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, qui présente des opportunités pour tous les pays membres de renforcer coordination multilatérale sur diverses questions, y compris les soins de santé. L'approche d'une seule santé, l'une des réalisations du G20 de l'année dernière à Bali, a été renforcée au niveau de l'ASEAN grâce à la préparation de la déclaration des dirigeants de l'ASEAN ALD sur les initiatives One Health, qui impliquait une collaboration transfrontalière entre les pays membres de l'ASEAN en matière de prévention et de préparation pour une pandémie, a déclaré Nadia. La préparation de la déclaration a impliqué les pays membres de l'ASEAN grâce au soutien de la FAO, du PNUE, de l'OMS, de WOAH, quadripartite, de la Banque mondiale, de la mission australienne auprès de l'ASEAN, de l'USAID, de l'Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni, de mitigation biologique, TRADE, MBT, ASEAN Canada est animé par le secrétariat de l'ASEAN du 15 au 17 mars 2023 à Bali. Le chef de l'Agence pour la protection des travailleurs migrants indonésiens BP2MI, Benny Ramdhani, a envoyé 503 travailleurs migrants indonésiens PMI en Corée du Sud à Jakarta lundi. Le départ de PMI est un programme de coopération intergouvernementale G2G. Benny Ramdhani, dans une déclaration écrite à Jakarta lundi, a rappelé que PMI doit toujours avoir un esprit Pancasila, même s'ils sont en signalé à l'ambassade d'Indonésie, KBRI, en Corée, s'il rencontre un problème, parce que le gouvernement indonésien garantit et protège les travailleurs migrants indonésiens. Bon, changé tard, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, intitulée « Moudik, augmente le chiffre d'affaires économiques du tourisme ». Vous êtes avec moi, Audrey. Cher Jamil Eid al-Fitr, qui est la principale fête en Indonésie, où la majorité de la population est musulmane, est encore à 17 jours. Mais l'agitation pour l'accueillir se fait déjà sentir. L'un d'eux est la préparation pour le célébrer avec des proches dans leur ville natale à travers la tradition du retour aux sources. Moudik ou rentrer chez soi est en effet l'une des traditions les plus importantes pour les musulmans indonésiens lors de la célébration de l'Aïd al-Fitri. Cette année, on estime que le nombre de voyageurs augmentera par rapport à l'année dernière. Ceci est conforme à l'absence de restrictions sur les activités communautaires. Au cours des trois dernières années, en raison de la pandémie de COVID-19, de nombreux musulmans indonésiens ont été contraints de célébrer l'Aïd al-Fitr en dehors de leur famille et de leurs proches restés au pays. Le ministre indonésien des Transports, Budi Karya Sumadi, a déclaré qu'en 2022, il y aura 85,5 millions de voyageurs. Cette année, ce chiffre devrait passer à environ 123,8 millions. Cela signifie qu'environ 46% de la population indonésienne effectuera une mobilité interrégionale pendant les vacances de l'Aïd al-Fitr 2023. Dans le même temps, le ministre indonésien du tourisme et de l'économie créative, Sandiaga Uno, a déclaré qu'à partir de la tradition de Moudik ou du retour aux villes natales en 2023, il est prévu que le chiffre d'affaires économiques dans les secteurs du tourisme et de l'économie créative atteindra entre 100 000 et 150 000 milliards de roupies. Espérons bien sûr que cette projection peut être atteinte. Cela signifie que les voyageurs ont un rôle important à jouer dans l'augmentation de la rotation de l'économie touristique et de l'économie créative. On espère que les voyageurs dépenseront leurs fonds pour effectuer des transactions dans le secteur du tourisme et l'économie créative locale, comme profiter des délices culinaires locaux et voyager vers des destinations touristiques locales. En outre, le gouvernement, diverses organisations de masse et le secteur privé offrent également des services de retour aux villes natales gratuitement. Par exemple, ce qu'ont fait le ministre indonésien du tourisme et le ministère des Transports. Ainsi, la répartition des frais de transport pour les voyageurs peut être détourné vers les achats dans leur ville natale. On espère que la rotation économique dans le secteur du tourisme et l'économie créative pendant la période de retour de l'Aïd al-Fitr aura un impact durable sur l'augmentation du chiffre d'affaires économiques régionales, en particulier ceux avec des objets touristiques. Les efforts des gouvernements central et régional pour assurer le confort et la sécurité en augmentant les installations touristiques pendant la période des retours augmenteront également la satisfaction des voyageurs. Cela augmentera à terme le nombre de visites des touristes nationaux. Espérons que la tradition du retour à la maison de l'Aïd al-Fitr de cette année deviendra un élan pour que le peuple indonésien soit encore plus fier de voyager à l'intérieur du pays. Si bien que le chiffre d'affaires économiques dans le domaine du tourisme et de l'économie créative augmentent également. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 5 avril 1950, la rébellion d'Andy Aziz à Makassar. La rébellion d'Andy Aziz était une tentative de résistance d'Andy Aziz, un ancien officier du CNIL. À cette époque, il tenta de maintenir l'existence de l'État de l'Indonésie orientale, NIT, car il hésitait à rejoindre l'État unitaire de la République d'Indonésie. Le 5 avril 1950, les troupes d'Andy Aziz ont attaqué le quartier général des forces armées nationales indonésiennes à Makassar. Les troupes d'Andy Aziz ont également occupé des objets importants tels que l'aérodrome et le bureau de télécommunications. Le 8 avril 1950, le gouvernement lance un ultimatum aux troupes d'Andy Aziz pour qu'elles se rendent. Le gouvernement réussit finalement à réprimer les troupes d'Andy Aziz le 15 avril 1950. Passons maintenant à l'événement du 5 avril 1955, Winston Churchill a démissionné de son poste de Premier ministre de Grande-Bretagne. Sir Winston Leonard Spencer Churchill était une personnalité politique étant auteur anglais. Il est nommé Premier ministre britannique en mai 1940 en remplaçant de Neville Chamberlain qui démissionne. Aux élections britanniques de 1951, il gagne et est réélu Premier ministre. Un accident vasculaire cérébral en juin 1953 a laissé Winston Churchill paralysé à gauche. En raison de son état de santé de plus en plus fragile, Winston Churchill démissionne le 5 avril 1955. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 5 avril 1988, le retournement de l'avion de Kuwait Airways. Le 5 avril 1988, un jumbo jet appartenant à Kuwait Airways volant de Bangkok au Kuwait est détourné par plusieurs guerriers libanaises. Ils ont exigé la libération des 17 miliciens musulmans chiites iraniens emprisonnés au Kuwait. L'avion transportait 97 passagers et 15 membres d'équipage. Le détournement a duré jusqu'au 20 avril 1988. Des passagers ont été tués lors du détournement jusqu'à ce que finalement tous les otages soient libérés dans la ville d'Alger en Algérie. Les prisonniers iraniens n'ont pas été libérés, mais les pirates de l'air n'ont pas été arrêtés et ont été autorisés à quitter l'Algérie et à s'envoler vers une destination inconnue. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Aku masih ingat beranikan diri menyapa percakapan singkat bermodalkan topik cuaca dan sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Mungkin kau pun ingat pernah ku tunggu semalaman, pikir terlambat, tapi kau malah ketiduran, dan itu tak runtuhkan niatku. Ujian menuju hatimu, ini aku yang tak menyerah, meski ini tak mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu beri jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu. Dan sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu beri jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
C'est Zeritak, bonsoir. Voici Mon Indonésie et pour le titre, le PMI manufacturier indonésien en mars 2023 a atteint 51,9. Les résultats de l'enquête publiée par SEP Global ont montré que l'indice des directeurs d'achat PMI manufacturier indonésien en mars 2023 était à la position 51,9, une augmentation par rapport au mois précédent qui était au niveau 51,2. Cette réalisation a de nouveau été en mesure de dépasser le PMI du plus grand centre de fabrication du monde, à savoir la Chine 50,0. Et la sienne avec le PMI 51,0. Dans un communiqué de presse cité par Antara lundi le 3 avril, le ministre de l'Industrie Agus Gumiwang Kartasasmita a déclaré que le taux de croissance de l'indice des directeurs d'achat en mars était le plus rapide depuis septembre dernier. Le ministre de l'Industrie a déclaré que le taux d'expansion de l'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier indonésien était conforme au résultat de l'indice de confiance industrielle IKI de mars 2023, qui affichait également une valeur d'expansion de 51,87. Agus Gumiwang expliquait que l'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier et l'indice de confiance industrielle de mars 2023 ont tous deux montré que la position d'expansion était soutenue par une nouvelle demande antérieure augmentant. L'augmentation de la demande antérieure a entraîné une augmentation de la production et de l'emploi, plus la performance des fournisseurs a augmenté et le transport s'est amélioré, de sorte que le stock de matières premières a augmenté et les contraintes de production ont diminué. Cela a stimulé la performance industrielle pour exécuter les commandes plus rapidement. Selon Agus Gumiwang, même si les coûts des entrants continuent d'augmenter, l'industrie ne répercute plus cette augmentation sur le prix de ses produits. Ainsi, on peut conclure que l'expansion du PMI est indissociable de l'augmentation de la performance interne de l'entreprise et des efforts du gouvernement pour maintenir le marché intérieur et améliorer le climat des affaires industrielles. En outre, les contraintes d'approvisionnement dans le secteur manufacturier indonésien se sont encore atténuées en mars, ce qui a entraîné des délais de livraison plus courts pour les commandes. Ceci est soutenu par une meilleure performance des fournisseurs et du transport. Par conséquent, le ministère de l'Industrie se concentre sur l'augmentation de la productivité dans le secteur industriel tout en renforçant le marché intérieur en optimisant l'utilisation des produits locaux et la substitution des importations. Cet effort est conforme à la direction du président Joko Widodo lors de l'événement La Paris-Manque d'affaires des produits nationaux il y a quelques temps, selon laquelle l'achat de produits locaux peut stimuler la croissance économique nationale et soutenir la compétitivité des industries nationales. C'est le résultat, c'était mon Désir pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers auditeurs, la mosquée Al-Alam, ou mieux connue sous le nom de mosquée Sipitung, est située sur les rives de la place de Marunda Pulau, dans le village de Cilincing, au nord de Jakarta. Dans le livre Encyclopédia Jakarta, Enistiani et ses amis, 2009, il est indiqué que dans cette mosquée, Pitung a passé beaucoup de temps à jouer, à étudier la religion, à apprendre l'autodéfense dans son enfance et à se cacher de passe et de compagnie. Mais dans une autre histoire, cette mosquée est le lieu où si Pitung, en écho de Rawa Blong, Jakarta, échappe à la poursuite de l'armée coloniale. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas Sipitung ni sa famille qui ont construit cette mosquée. L'architecture rappelle le modèle de la mosquée de Mark, mais à plus petite échelle. Le toit en forme de joglo est soutenu par quatre piliers ronds et courts, comme des pattes d'échec. Le mihrab qui s'adapte à la taille du corps fait saillir dans le mur est à droite de la chaire. Contrairement à d'autres mosquées anciennes, la particularité de cette mosquée est qu'elle a un plafond de 2 mètres de haut à partir du sol antérieur. On ne sait pas qui était le fondateur de la mosquée Al-Alam. Selon l'un des administrateurs de la mosquée, à savoir Haji Atit, la population locale a nommé cette mosquée comme la mosquée de l'invisible. À partir d'un compte héréditaire, il a été déclaré qu'en cours de fabrication, il y a longtemps, cette mosquée a été construite en juste un jour et une nuit. Pendant ce temps, sur la base de recherches menées par le service des antiquités de Jakarta en 1980, on estime que cette mosquée a été construite le 22 juin 1527. Cette date serait l'anniversaire de Jakarta. Selon l'histoire, à cette époque, Fatahillah et ses troupes de Demak Cirebon sont venus expulser les Portugais de Sunda Kelapa. Il a construit une mosquée comme lieu de culte ainsi qu'une concentration de troupes. Fatahillah et ses troupes ont alors réussi à s'emparer de Sunda Kelapa et à établir Jayakarta. L'architecture de cette mosquée contient quatre éléments culturels, à savoir Java, Europe, Chine et Betawi. Chers auditeurs, la mosquée Al-Alam a été intentionnellement magnifiquement construite dans un style mixte car à cette époque, Marunda était à la fois une ville et un centre économique. À l'époque des Antes orientales néerlandaises, cette mosquée est devenue un centre de dakwah qui a donné naissance à des combattants. La mosquée Al-Alam était également une forteresse pour les combattants à cette époque. En 1884, le Mont Krakatau est entré en éruption et a provoqué un tsunami qui a balayé Sunda Kelapa à Marunda. Cependant, on pense que la mosquée Al-Alam est intacte, même si la zone qui l'entoure a été détruite par les vagues. Basée sur des histoires de personnes âgées, les vagues de tsunami se sont divisées lorsqu'elles sont arrivées à la mosquée Al-Alam afin que les vagues n'endommagent pas le bâtiment. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Bukan sekali, tak sengaja kita berjumpa. Ku tahu kau mencuri tatapan kepadaku. Mungkinkah kita merasa getarannya sama? Mungkinkah kita seharusnya menyatukan rasa?
C'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente les vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est di sebelah kiri ada gedung RRI. Di sebelah kiri ada gedung RRI. Sur la gauche, il y a le bâtiment RRI. Bonne écoute. Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien, intitulé « Di sebelah kiri ada gedung RRI ». Di sebelah kiri ada gedung RRI. Sur la gauche, il y a le bâtiment RRI. Cette conversation se déroule entre Dev Singh, un touriste indien, et Datil, un guide touristique, dans la cour de Monas. Datil informe les environs de Monas à Dev et aux autres touristes. Di sebelah kiri ada gedung radio Republik Indonesia. Istana Negara di mana? Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Di sebelah kiri ada gedung RRI. Di sebelah kiri ada gedung RRI. Sur la gauche, il y a le bâtiment RRI. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Di sebelah kiri kita. Di sebelah kiri kita. Sur notre gauche. Ada. Ada. Il y a. Gedung Radio Republik Indonesia. Gedung Radio Republik Indonesia. Le bâtiment. Radio Republik Indonesia. Di sebelah kiri ada gedung Radio Republik Indonesia. Di sebelah kiri ada gedung Radio Republik Indonesia. Sur notre gauche se trouve le bâtiment Radio Republik Indonesia. Serge Hittar, dans la conversation, vous avez entendu l'expression di sebelah kiri kita ada gedung Radio Republik Indonesia. Di sebelah kiri kita ada gedung Radio Republik Indonesia. En français, à notre gauche, se trouve le bâtiment de Radio République Indonésia. Chers amis, une expression indiquant un emplacement, à savoir « di sebelah kiri kita » sur notre gauche. Dans ce discours, l'expression « di sebelah kiri » à côté de, ou bien « di sebelah à côté de » utilisé pour manquer des informations sur l'emplacement du bâtiment Radio République Indonésia. Pour indiquer un emplacement, l'expression di sebelah à côté de, est suivi d'un mot indiquant la direction. Par exemple, kiri, kiri, gauche. Chers amis, en plus d'être suivi d'un mot indiquant la direction comme kiri, kiri, gauche, ou kanan, kanan, droite, pour indiquer un lieu, l'expression di sebelah à côté de, peut être suivi d'un nom de lieu. Allez, maintenant, écoutons le discours pour expliquer l'emplacement. Di sebelah, à côté de, gedung RRI, gedung RRI ada di sebelah gedung Museum Nasional. Gedung Radio Republik Indonesia RRI ada di sebelah gedung Museum Nasional. Le bâtiment de Radio Republik Indonesia RRI est à côté du bâtiment du Musée National. Gedung Radio Republik Indonesia ada di sebelah gedung Mahkamah Konstitusi. Gedung Radio Republik Indonesia ada di sebelah gedung Mahkamah Konstitusi. Le bâtiment de Radio Republik Indonesia est à côté du bâtiment de la Cour consommatrice. Non, de la Cour constitutionnelle. Bon, chers auditeurs, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute. Di sebelah kiri ada gedung Radio Republik Indonesia. Istana Negara di mana? Bon, Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 33,5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson de Sumatra du Nord, intitulée Didia Rokaphi. Chers amis, la chanson Didia Rokaphi a été composée par Daka Hutagulung et popularisée par Devi Marpaung en 2010. Les paroles de Didia Rokaphi parlent de l'expression de la tristesse de quelqu'un qui n'a pas encore trouvé l'âme sœur. La personne ne voulait pas rendre le cœur de sa mère triste, a même obéi à l'ordre de sa mère de la marier, de se marier. Mais quelle puissance personne ne lui convient et ne lui correspond. Bon, chers auditeurs, voici Yodra va chanter une chanson intitulée Didia Rokaphi. Bonne écoute.
Nice.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiceindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.